Nous voulons implorer la grâce de Dieu sur nous tous. Ô Dieu, en cette matinée du 8 août, réunis sous ton regard, nous désirons entendre ta voix. Et nous te demandons que toi qui as parlé par ton serviteur Paul, tu nous parles toi-même au travers de ce qu'il nous a transmis et que nous puissions discerner réellement la voix du Père et que le Saint-Esprit exalte le Fils que le Père nous a donné et que dans la communion du Père et du Fils, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions réellement savoir ce que nous donne la vie éternelle, qui était auprès de toi et qui a été manifestée, que des hommes ont vu et ont contemplé, que des hommes ont entendu, et qu'à notre tour, nous devenions les uns et les autres paroles de vie pour le monde perdu. Amen. Eh bien, mes amis, ce matin, le Seigneur nous a conduit à vous proposer une récapitulation des 8 premiers chapitres de cette épître aux Romains qui nous présente tout particulièrement ce qu'est la puissance de Dieu manifestée dans l'Évangile et capable de transformer nos vies. Après cette récapitulation, qui doit permettre aux nouveaux venus d'avoir une idée de ce que nous avons étudié, nous ferons une étude prospective sur les chapitres que nous allons étudier dès lundi matin, si nous sommes encore de ce monde. Et je pense qu'ainsi, ceux qui vont nous quitter resteront en communion avec nous et réaliseront que les vérités doctrinales qu'ils ont considérées dans cette première semaine doivent avoir une action toute pratique dans leur vie alors qu'ils seront hors du camp et de nouveau en but à certaines difficultés. Nous resterons ainsi en communion les uns avec les autres. Et tout de suite, pour que vous soyez encouragés, je voudrais vous faire part d'une réflexion que m'a fait l'un d'entre vous ce matin dans un entretien particulier. Il m'a demandé très simplement, est-ce que pour vous, qui avait 50 ans de vie avec le Seigneur, est-ce que vous trouvez encore quelque chose de nouveau dans l'Écriture quand vous la lisez? Et ma réponse était bien simple. En face de tout ce que j'ignore encore dans l'Écriture, je suis en quelque sorte effrayé du peu de connaissances que je possède. Et je le dis avec vérité. Quand je me rends compte des richesses que contient l'Écriture, j'arrive à me dire que je n'en ai découvert que les bords. Et que ce que j'en entends aujourd'hui encore n'est qu'un faible murmure, comme le dit Job, qui était déjà à l'écoute du Seigneur. Ce n'est encore qu'un murmure. Et je voudrais me plonger tout entier dans cette étude contemplative de l'Écriture sainte. C'est le conseil que Paul donnait à son enfant dans la foi, Timothée, jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, occupe-toi de ces choses et sois-y tout entier. Et c'est à un homme qui, dès son enfance, connaissait les saintes lettres, qu'il avait entendu de sa mère, Eunice, et de sa grand-mère, Loïs. Et c'est pourtant à cet homme qui connaît dès son enfance les saintes lettres, c'est-à-dire les écrits de l'Ancien Testament, que Paul donne ce conseil. Attache-toi à la lecture, sois-y tout entier. Et tes progrès seront évidents à tous. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Et voyez-vous, vous ne devez jamais vous dire, mais moi j'ai déjà lu ça. Quand vous en arrivez à cela, vous ne recevez plus rien. Si pour vous c'est du déjà lu, vous ne recevrez rien. Mais si chaque fois vous vous dites, c'est la parole de Dieu, et cette parole a mille facettes, et que vous êtes dans cet esprit de réception, de réceptivité, le Seigneur, par son esprit, vous rappellera, vous enseignera des choses vieilles et des choses nouvelles. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Et celui qui doit apporter la parole au peuple, il est dit que du bon trésor de son cœur, il tire des choses nouvelles et des choses vieilles. Il y a des choses que j'ai pu vous dire qui pour vous étaient des choses vieilles. Mais si vous voulez être droit devant le Seigneur, il y en a d'autres dont vous pouvez dire, eh bien, ça a été nouveau pour moi. Non pas parce que moi j'ai trouvé ça, mais parce que Dieu l'a donné, jour après jour, heure après heure, dans la méditation, dans l'adoration, dans le silence, dans la contemplation. Dieu nous parle, nous le voyons, et c'est ainsi que la parole pénètre nos cœurs. Alors ne vous découragez pas, mais souvenez-vous que ces conseils que nous trouvons dans le Nouveau Testament sont déjà dans l'Ancien Testament, et ceux qui ont pris à cœur cet Ancien Testament et ce que l'Éternel, par exemple, disait à Josué, ont fait l'expérience qu'il n'y a de bénédiction dans la vie humaine que dans cette voie-là. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner, dit l'Éternel à Josué après la mort de Moïse. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Ne dites pas, mais au camp Mahanaïm, eh bien, quelqu'un nous enseignait, et alors, maintenant nous sommes seuls. Comme j'ai été au camp Mahanaïm, je serai avec toi quand vous serez seuls. Et vous entrerez en possession de ce bon pays dans lequel vous devriez déjà vivre. Ces lieux célestes où se trouve déjà notre cœur. Quand Jésus ressuscité et monté au ciel, il a emporté avec lui le cœur des siens, à un tel point que si réellement nous sommes en Christ, nous sommes déjà vus assis dans les lieux célestes, dans le Christ, bénis de toute bénédiction spirituelle, de toute, nous dit l'apôtre, c'est déjà fait. Seulement, il est ajouté dans ce chapitre premier de Josué, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne me parlez plus du milieu dans lequel vous devez évoluer. Le Seigneur est en vous, si vous l'avez réellement reçu. Le milieu ne nous sépare jamais du Seigneur, quand nous l'avons réellement en nous. Pour que le milieu nous sépare du Seigneur, il faut que nous n'ayons encore qu'un Christ extérieur à notre vie. Et alors, le milieu, évidemment, vient s'intercaler entre nous et le Seigneur. Mais si le Christ est en vous, eh bien, vous êtes avec le Christ dans le milieu. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné dans sa merveilleuse prière qu'on appelle la prière sacerdotale qu'il a prononcée la nuit où il fut livré, chapitre 17 de Jean. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde, parce qu'on se trouve en Christ. Alors, mes amis, nous allons simplement voir rapidement ce que nous avons considéré dans les journées passées. Pour ceux qui n'étaient pas là, je dirais comment nous avions divisé nos études pour pouvoir couvrir en ces 15 jours toute l'épître aux Romains. Nous avons fait une introduction le premier jour, qui était le samedi, et nous avons étudié l'adresse, l'action de grâce et la prière de l'apôtre que nous trouvons dans les 15 premiers versets du premier chapitre. Puis, le dimanche, nous avons pris comme thème de notre culte la thèse que l'apôtre Paul énonce au verset 16 et 17 de ce premier chapitre et qui est l'Évangile, puissance de Dieu, révélation de sa justice pour nous donner un salut que nous obtenons par la foi et pour la foi. Et après ce beau dimanche, nous sommes entrés dans l'étude systématique des chapitres 1, verset 18 à chapitre 3, verset 20, où nous voyons l'état moral de l'homme devant Dieu. Le mardi, la rédemption et la justification par la foi, portion qui commençait au chapitre 3, verset 21. jusqu'au chapitre 5, verset 12e, et la vie nouvelle, ou la délivrance du péché, le mercredi, depuis le chapitre 5, verset 12, au chapitre 6, fin du chapitre 6. Puis, jeudi, c'était la vie nouvelle, ou le rôle de la loi dans notre affranchissement. Nous considérions le chapitre 7. Le vendredi, la vie nouvelle, ou notre sanctification par l'Esprit, c'était le chapitre 8. Et maintenant, c'est la récapitulation de ces 8 chapitres que nous entreprenons. Quand vous ouvrez votre Bible à l'Épître aux Romains, Épître donc qui se trouve en tête de ces Épîtres de Paul, mais qui, comme nous l'avons dit, n'est pas la première que Paul a écrite. Elle a été mise en tête du canon des Épîtres pauliniennes, non parce qu'elle était la première épître que Paul a écrite, mais parce qu'elle contient un résumé extraordinairement merveilleux des vérités essentielles du christianisme. La première épître que Paul a écrite, vous vous souvenez, c'est l'épître aux Thessaloniciens. Bon. Alors, ceci dit, quand nous ouvrons notre Bible, eh bien, nous trouvons d'abord dans ces versets 1 à 7 l'adresse, la signature donc de l'auteur de cet épître. Et nous apprenons que c'est Paul. Je pense que tous maintenant connaissent qui est Paul et comment il est devenu l'esclave, pas seulement le serviteur, on devrait traduire par l'esclave de Jésus-Christ. Comment il a été fait apôtre, c'est-à-dire envoyé par un appel tout à fait précis pour annoncer l'évangile de Dieu. Non pas un évangile qu'il aurait reçu des apôtres, mais qu'il a reçu directement de Dieu par une révélation. Sinon, il ne pourrait pas être apôtre. Pour être apôtre, il fallait avoir vu le Seigneur. Eh bien, comme Paul ne l'avait pas vu dans sa vie, il n'avait pas connu le Christ selon la chair, quand Dieu a trouvé bon d'appeler ce jeune Saul de Tarse, il a eu la révélation du Christ dans la gloire. Il l'a vu avant que l'Église le voie dans sa gloire, lorsqu'il apparaîtra sur les nuées. Il l'a vu avant que le monde le voie venant dans sa puissance glorieuse pour établir son règne dans le deuxième acte ou dans la deuxième phase de son retour glorieux. Car le Seigneur reviendra. Et nous croyons que nous sommes proches de son retour. Et je voudrais vous demander, avez-vous la connaissance de cette vérité que le Seigneur reviendra? Cela est possible que vous connaissiez ces vérités. Mais alors je vous demanderai, est-ce que vous l'attendez, ce Seigneur? Car il y a une grande différence entre connaître les vérités concernant le retour du Christ et vivre dans l'attente de sa venue, qui fait notre bienheureuse espérance et qui change toute notre manière de vivre ici-bas. Car quand on a cette espérance en nous, l'apôtre Jean nous dit qu'on se purifie comme le Seigneur lui-même est pur. je ne connais pas de vérité plus capable de sanctifier notre vie que la vérité du retour du Seigneur. Comme je le dis souvent, on ne va plus où on ne voudrait être trouvé, on ne fait plus ce qu'on ne voudrait faire, on ne dit plus ce qu'on ne voudrait dire quand Jésus vient. Et cela n'est pas un esclavage, c'est simplement l'expression que nous sommes en communion avec celui qui nous habite, que le Seigneur n'est jamais loin de nous, mais qu'il est en nous, non seulement avec nous, mais qu'il demeure en nous. Alors tout devient vie et réalité. Donc l'apôtre Paul est devenu ce qu'il était parce qu'il a eu une révélation spéciale du Seigneur et il était mis à part pour annoncer l'évangile. Et ce qu'il a appris, c'est que cette mise à part ne partait pas du moment où il s'est converti au Seigneur, du moment de sa décision où il s'est écrié « Je ne peux pas résister à cette vision céleste ». Mais il a appris qu'il avait été mis à part par le Seigneur dès les entrailles de sa mère, alors qu'il n'était pas encore né. Et que malgré qu'il était opposé à l'évangile, opposé au message des apôtres, Dieu l'aimait quand même. Dieu le suivait quand Saul de Tarse était persécuteur, outrageux, blasphémateur du nom de Jésus. Dieu l'aimait. Dieu nous a aimés quand nous étions sans force, quand nous étions encore des impies. Voilà ce que nous apprenons de la vocation de Saul de Tarse. Il ne s'est pas fait apôtre, il a été fait apôtre pour annoncer cet évangile de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle que Paul annonçait, il l'avait reçue de Dieu. Cette bonne nouvelle avait sa source dans le cœur de Dieu. Et cet évangile, nous apprenons qu'il était promis dans tout l'Ancien Testament, de sorte que nous avons pu faire à Rouen, pour ceux qui sont de là et qui ont participé, une fin de semaine intitulée « L'évangile dans l'Ancien Testament ». Et c'est d'une richesse incomparable de chercher à découvrir, depuis la première page de la Genèse à la dernière page de Malachie, l'évangile caché dans l'Ancien Testament. Vous ne pouvez plus lire l'Ancien Testament avec les mêmes yeux et vous faites alors des découvertes extraordinaires. Vous êtes aussi à l'aise dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau et vous recevez autant d'édification dans les pages de Moïse, de David ou des prophètes que dans les quatre évangiles qui nous rapportent les paroles de Jésus-Christ ou dans les épîtres, qu'elles soient de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean ou de Jude. La Bible vous apparaît comme un livre complet, la parole inspirée de Dieu qui nous a été donnée pour que nous puissions grandir à la louange et à la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit soit donc toujours votre maître et la parole de Dieu votre maîtresse. Et en étant ainsi à l'école du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, nous serons à l'école même du Seigneur. Le maître des maîtres qui disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ou apprenez de moi et vous trouverez le repos de vos âmes. Car je suis doux et humble de cœur, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Et c'est ainsi qu'à l'école du Seigneur, l'intelligence des Écritures vous sera donnée. Et au lieu que ce livre vous apparaisse comme un livre fermé, eh bien, ce livre vous sera ouvert. Comme le grand livre de la nature est ouvert aux yeux de tous les hommes, la Bible deviendra pour vous un livre ouvert. Mais vous le savez bien, même la nature qui est ouverte aux yeux de tous les hommes, quelle que soit leur couleur, leur race, leur religion, cette nature ne dit rien à plusieurs. Ils n'apprennent rien, ni du monde végétal qui pourtant nous parle, ni du monde animal qui pourtant nous enseigne. Ils s'en vont comme des aveux, tristes et abattus, n'entendant même plus le chant des oiseaux, que c'est triste, aveugle, aux beautés du Créateur, et combien plus aveugle, lorsqu'ils doivent lire la parole, ils ne comprennent pas. Eh bien, demandez au Seigneur qu'il vous donne un collier pour oindre vos yeux, afin que vous puissiez voir, et qu'il vous donne aussi de découvrir par lui dans cette parole l'or, l'argent et les pierres précieuses que chaque page de ce livre contienne pour que vous soyez enrichis et n'ayant besoin de rien. Car la parole est une nourriture, la parole est un vêtement, la parole c'est le roc sur laquelle se fonde notre vie et sur laquelle nous construisons notre bonheur. Donc l'Évangile était déjà dans l'Ancien Testament, il y était annoncé, et il concernait qui est l'objet de l'Évangile? Le Fils, le Seigneur Jésus, le Fils. Et qui est ce Fils? Selon la chair, il est de la semence de David, par Marie, sa mère, qui a conçu du Saint-Esprit, de sorte que, selon l'Esprit, il est le Fils éternel de Dieu, son commencement n'étant pas à la crèche, et sa fin ne pouvant pas être à la croix. Jésus est celui qui, étant de toute éternité dans la gloire, Fils éternel, est venu en chair, tandis que nous, nous entrons dans le monde en étant nés de la chair. Jésus, lui, il est venu en chair, le Fils de Dieu est venu en chair, ça veut dire qu'il existait avant sa naissance. Nous, nous n'avions pas d'existence propre avant notre naissance, nous n'existions que dans le conseil de Dieu. Et au jour où Dieu l'a voulu, il nous a fait naître ici-bas, au temps convenable, le Fils éternel est apparu dans le monde selon qu'il avait été promis. Et la divinité essentielle de Jésus nous a tout de suite été précisée au début de cet épître. L'apôtre le souligne, que s'il y avait encore chez vous un doute au sujet de cette divinité, il disparaît par la résurrection de Jésus-Christ, qui est un fait historique. Jésus-Christ est ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, tout le christianisme serait une vaste duperie, car le christianisme est fondé sur la résurrection du Seigneur Jésus. Si Jésus n'a pas été ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés et il n'y a pas de salut possible pour aucun homme. Ce qui nous donne la certitude que nous pouvons être justifiés devant Dieu et qu'il y a une vie par-delà la mort, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est par sa résurrection que nous savons que Dieu a accepté son sacrifice à la croix. Et c'est par la résurrection de Jésus-Christ que nous pouvons dire quelqu'un est revenu de la mort pour ne plus mourir. Quand on vous dit personne n'est revenu, oui, il y a quelqu'un qui est revenu de la mort, c'est le Seigneur Jésus, après avoir vaincu la mort. Alors toutes ces vérités, elles se trouvent donc dans ce début du premier chapitre de l'Épître aux Romains, et c'est ce merveilleux message que l'apôtre Paul devait annoncer au monde entier, et ce qu'il désirait, c'était de pouvoir amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Et nous voyons tout de suite que la foi qui sauve n'est pas une adhésion intellectuelle à certains dogmes, mais la foi qui sauve est réellement une obéissance à la parole de Dieu. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend nous vient de la parole de Dieu. Alors si vous dites, moi je voudrais bien avoir la foi, eh bien si vous avez vraiment ce désir, mettez-vous à lire la parole de Dieu. Ne vous attendez jamais à ce que la foi vous tombe du ciel. La foi, elle est produite lorsqu'en lisant le témoignage que Dieu rend au sujet de son Fils, vous entendez dans votre cœur cette voix qui vous dit « c'est vrai ». C'est vrai au sujet de ce qu'il dit de moi, c'est vrai au sujet de ce qu'il dit de son Fils. Et c'est cela la foi. La foi, c'est pas croire que Dieu existe, la foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et quand on croit ce que Dieu dit, eh bien, on se met à obéir à ce qu'il a déclaré. On ne vit plus comme si Dieu n'existe pas. Alors, on connaît la grâce et la paix que Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ nous accordent. Et alors, cette épître aux Romains, elle est adressée particulièrement à ces chrétiens qui étaient à Rome, église qui n'a pas été fondée par l'apôtre Pierre, sinon, dans un sens, il a prêché, Pierre, l'évangile à Jérusalem. Des gens juifs qui étaient de Rome et qui se trouvaient là ont entendu cet évangile et sont retournés à Rome, où ils ont rendu témoignage au Christ. On pense que c'est ainsi que la communauté de Rome s'est formée, et d'autres personnes, converties alors ensuite de l'athéisme, du paganisme, sont venues, elles aussi, collaborer à l'édification de ce témoignage qui avait commencé dans cette capitale du monde d'alors. Et l'apôtre Paul déclare maintenant à ces Romains, croyants de Rome, qu'il désirerait les voir pour leur annoncer l'évangile. Et nous voyons tout de suite que l'évangile, ce n'est pas donc un petit message dont ont besoin seulement les perdus, mais l'évangile, c'est le grand message dont ont besoin les croyants. J'ai toujours besoin d'entendre l'évangile. Et quand on me dit, oh, vous savez, c'était une réunion d'évangélisation. C'est pas pour moi une réunion d'évangélisation. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet évangile qu'on annonce dans une réunion d'évangélisation? Évidemment, j'ai souvent l'impression que ce n'est pas du tout pour moi, quand je vois comment on annonce l'évangile. Mais quand j'entends un serviteur de Dieu fidèle annoncer l'évangile comme il faut l'annoncer, je sais que c'est pour moi. Et je reçois chaque fois une bénédiction. Je me sens instruit, je me sens enseigné, exhorté et aussi consolé par le message que j'écoute. Et quand je sors d'une telle réunion, je sens le besoin, non pas de me divertir et de me détendre d'une manière stupide, je sens le besoin de me retrouver seul avec le Seigneur pour le laisser lui-même me parler. La prédication n'ayant été pour moi que la plateforme qui me permettait de m'envoler plus haut pour avoir un contact direct avec mon Seigneur. Et c'est comme ça que nous sommes bénis. Donc l'apôtre se réjouissait d'aller à Rome. Il priait déjà pour ces gens qu'il ne connaissait pas encore de visage, du moins le plus grand nombre, mais il les avait dans son cœur. Et ce qu'il avait appris de leur témoignage le réjouissait déjà tellement. Et il était ambitieux qu'il puisse recevoir encore davantage. Et c'est pourquoi il était persuadé, en toute humilité, qu'en allant les trouver, ils s'édifieraient les uns les autres sur la foi qui leur était commune. Voilà donc le commencement de cet épître aux Romains. Et Paul dit qu'il se sent débiteur aussi bien envers les Grecs qu'envers les barbares, c'est-à-dire qu'envers les gens intelligents qui avaient une instruction, que vis-à-vis des gens qui n'avaient pas eu cette possibilité de recevoir une grande culture. Et on peut penser à tous ces esclaves qui vivaient à Rome et qui furent convertis à l'Évangile et qui furent les témoins du Seigneur et dont beaucoup connurent le martyre dans les arènes romaines sous le terrible règne de Néron. Paul aimait ces âmes. Et il désirait aller à Rome pour leur apporter, non pas du trouble et de la division, mais une bénédiction et un accroissement spirituel. Et alors, il nous dit ensuite, et c'est ce que nous avons vu dimanche, que l'évangile qu'ils désirent leur prêcher ne peut pas en avoir honte, parce que c'est la puissance de Dieu. Cette puissance, il l'a expérimentée dans sa propre vie, elle l'a transformée. Et je vous le demande maintenant, est-ce que vous avez été mis dans cette semaine en contact avec un évangile capable de vous transformer? Ou bien est-ce que vous ne pouviez plus rien recevoir parce que vous avez tout reçu? Ben moi, je vous promets, je n'ai pas tout reçu. J'ai encore tellement besoin de recevoir. Et je vous promets que je ne me crois pas un arrivé au but. Et je suis bien persuadé qu'il y en a qui en savent beaucoup plus que moi. Et je voudrais leur ressembler. Alors, mes amis, je cours, oubliant les choses qui sont derrière, oubliant même mes expériences passées qui ont été belles avec le Seigneur, quand je pense à sa fidélité. Mais je ne veux pas vivre de ces expériences passées, je ne veux pas vivre de souvenirs, je veux vivre aujourd'hui. Et l'Évangile, c'est un message pour aujourd'hui. Je veux vivre aujourd'hui, pleinement, recevant aujourd'hui la grâce dont j'ai besoin. C'est ainsi que les Israélites avaient dû apprendre que c'était chaque jour qu'ils devaient se nourrir de la manne, parce que la manne qu'ils avaient pris hier, s'ils en avaient conservé pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils constataient ? Elle se corrompait. Alors souvenez-vous de cela. C'est quotidiennement qu'il faut recueillir la manne. Vous ne serez pas bien fort si vous vivez des expériences d'hier. Le Seigneur est vivant aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais nous allons avec un Seigneur qui marche et qui nous fait avancer. Et nous avons découvert que ce qui fait de nous un chrétien, ce n'est pas d'être né dans une famille chrétienne, catholique, protestante ou évangélique, ou encore se réclamant d'un isme quelconque, mais ce qui fait un chrétien, ce n'est donc pas d'avoir été baptisé simplement, sans même qu'on en soit conscient de ce qu'on nous a fait. Ce qui fait un chrétien, ce n'est pas d'avoir reçu un catéchisme, mais ce qui fait un chrétien, c'est d'avoir reçu cette révélation du Père, qu'il se plaît à nous manifester son Fils. Quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, l'homme religieux qui était Saul de Tarse est devenu le croyant qui fut l'apôtre Paul. Et ce qu'il a réalisé, c'est cette justice de Dieu. Que Dieu, que l'on entend si souvent critiquer, dont on nous dit qu'il n'est pas juste. Et je voudrais bien qu'il n'y ait plus personne ici qui ait encore cette conception d'un Dieu qui pourrait ne pas être juste. C'est que vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'avez pas eu la révélation de sa justice. Bien lisez l'Évangile et vous verrez ce que veut dire la justice de Dieu, qui n'a pas voulu condamner le pécheur, mais qui, étant le créateur de cet être, prend la responsabilité de la création et décide de le sauver lui-même, en venant lui témoigner tout son amour, prenant les fautes de sa créature sur lui, et les expiant lui-même pour pouvoir lui faire grâce, une grâce basée sur une justice et une sainteté parfaitement satisfaites. Et après cela, nous avons vu comment Paul nous montre que ce message était aussi bien pour les païens que pour les juifs, parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des juifs, mais aussi le Dieu des païens. Et l'apôtre s'est attaché à montrer que aussi bien les païens que les juifs, que les païens avaient besoin de ce grand salut de Dieu, car tous étaient coupables devant Dieu. Et que ce n'était pas d'avoir la connaissance de la loi ou d'avoir été circoncis dans la chair qui sauvait un homme, ou d'être de la descendance d'Abraham selon la chair qui faisait un sauvé, mais que ce qui nous sauvait, c'était d'avoir cette foi en la parole du Seigneur, de discerner dans toutes les œuvres qu'il a faites sa puissance éternelle et sa divinité. Et ce simple témoignage de la création, nous dit l'apôtre, était suffisant pour rendre inexcusables les païens de vivre sans loi naturelle. Car la loi naturelle, Dieu l'a mise dans la création, et la nature est assez forte pour nous enseigner. C'est ce que Paul dira ailleurs. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, les païens ont entendu la voix de Dieu dans la nature, et plusieurs, d'après leur conscience, qui appartient à tous les hommes, d'après la voix de leur conscience et ce qu'ils voyaient dans la nature, ont eu une révélation de la pensée de Dieu et se sont conformés à ses règles. N'ayant pas de loi écrite, ils ont pourtant marché d'après cette loi universelle, et Dieu leur en tiendra compte au jour du jugement. Et c'est pourquoi un païen est inexcusable de vivre dans la débauche. Et nous avons vu quel tableau effroyable l'apôtre nous fait dans le premier chapitre de l'état des païens, qui ayant eu eux aussi la connaissance de Dieu, ne l'ont pas gardé. Et quand on ne garde pas la connaissance de Dieu, nous sommes livrés alors à toute espèce d'impureté. Et quand vous lirez cela, encore une fois, vous verrez le tableau du monde à l'heure actuelle, monde qui ressemble étrangement à celui du temps de Noé et à celui de Sodome qui allait connaître la grande catastrophe. Mais ensuite, après avoir souligné la responsabilité des païens, l'apôtre montre que Dieu a eu aussi beaucoup de bonté vis-à-vis des païens, leur donnant des saisons fertiles, leur donnant de la joie, même si on l'attribue pas à Dieu, cette joie des païens. Quand un païen a un peu de joie, elle vient d'en haut. Le Seigneur fait tomber sa pluie et il fait luire son soleil aussi bien sur les justes que les injustes. Et ensuite, aux Juifs qui se glorifiaient d'avoir la loi de Dieu, Paul leur montre qu'il ne suffit pas de dire « j'ai la connaissance du vrai Dieu, du Dieu unique, je ne suis pas comme les païens ». Il faut encore vivre selon cette connaissance. Et c'est ce qu'il démontre, c'est qu'on peut avoir toute cette connaissance, on peut même prêcher aux autres et vivre nous-mêmes en transgresseurs de la loi. Et sa conclusion, c'est que les Juifs, non pas simplement le descendant d'Abraham, mais réellement celui qui fait la volonté de Dieu. Et il en arrive à montrer que tous les hommes, soit les païens, soit les Juifs, sont des transgresseurs de la loi de Dieu et sont tous coupables devant Dieu et qu'aucun ne peut parvenir à la gloire de Dieu par ses propres forces. Et c'est ainsi qu'il introduit la justification par la foi. Puisque l'homme ne peut pas parvenir à la gloire de Dieu, il était donc nécessaire que Dieu fît une œuvre, et cette œuvre, il l'a accomplie au temps convenable, quand la loi eut manifesté l'incapacité totale de l'homme de plaire à Dieu, Dieu envoie son Fils. Celui qui seul peut nous délivrer et de nos péchés et de la puissance de la loi et qui nous retenait au fond dans une espèce de captivité et aussi de la crainte de la mort pour que nos vies puissent s'épanouir dans cette merveilleuse grâce de Dieu. Et dans le chapitre 4, après avoir conclu que l'homme ne pouvait pas être sauvé par la loi ou par les œuvres de loi, qu'il ne pouvait être sauvé que par cette justice que Dieu lui donnait dans le Christ et que nous nous approprions par la foi, don gratuit de Dieu, mais qui devient le nôtre quand nous nous l'approprions, après nous avoir dit cela, il donne des exemples, l'exemple d'Abraham, qui n'a pas été justifié d'une autre manière que par la foi, et non pas par la circoncision, l'exemple aussi de David, qui nous montre le bonheur de celui dont la transgression a été pardonnée et dont les péchés ont été couverts. Puis, revenant à Abraham, il nous montre comment cet homme a persévéré dans la foi, ne croyant que la parole de Dieu et ne regardant pas à ce qu'il était, mais à ce que Dieu avait dit. Parce que si vous regardez à ce que vous êtes, vous n'y croirez pas. Vous direz que c'est impossible. Comme Abraham pouvait dire quand il regardait à lui-même, je suis trop jeune. C'est ça? Ah oui, oui, on s'entend. Je suis trop vieux. Et puis Sarah, c'est plus possible que la promesse s'accomplisse. Si vous regardez à vous-même, vous dites d'avance, c'est pas possible. Hein? Vous n'aurez jamais la victoire si vous regardez à vous-même. La foi vous fait regarder à qui? À celui qui a promis. Et alors vous vous emparez de ces choses et vous demeurez ferme. Et alors, justifié ainsi par la foi, vous avez la paix avec Dieu pour le passé, vous avez la grâce pour le présent et pour l'avenir, vous avez la gloire. Et pour vous façonner dans le témoignage chrétien, Dieu ajoute encore des tribulations mais que vous acceptez joyeusement, puisque vous avez reçu les biens de la main de Dieu, pourquoi ne recevriez-vous pas les mots? Le Seigneur nous éduque par la souffrance, il nous donne la patience. La patience elle-même produit quoi? L'expérience, et l'expérience produit une espérance. Une espérance qui ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cela qui change complètement un homme. Et nous avons l'assurance de notre salut, non pas parce que nous nous croyons meilleurs que les autres, mais parce que nous avons reconnu la parole de Dieu qui nous disait que nous étions perdus. Et une fois que j'ai reconnu que j'étais perdu, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'il ne veut pas ma mort, mais ma vie, et qu'il a envoyé son Fils pour être mon sauveur. Et que l'œuvre de son Fils est une œuvre si parfaite que je suis sauvé totalement. J'ai un salut total dans le Seigneur Jésus. Et que je puis maintenant m'appuyer sur ce fait qui a été accompli en dehors de moi, la croix du calvaire où Christ est mort. C'est là que Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est vraiment mort pour nous. Alors combien plus maintenant que nous savons que par sa mort nous avons la vie, combien plus savons-nous, saurons-nous que maintenant qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite de Dieu, nous serons sauvés par sa vie éternelle, par son intercession. Nos péchés ne sont plus. Le Seigneur les a expiés. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est la délivrance du péché, de cette nature que nous avons héritée en Adam. Et c'est alors le chapitre 6 des Romains qui nous montre comment nous pouvons être délivrés de la puissance du péché, comment nous pouvons être affranchi du péché. Ce péché qui est une attitude du cœur qui produit les péchés au pluriel, c'est simplement en acceptant que non seulement le Christ soit mort pour nos péchés, mais en acceptant qu'il ait bien voulu nous prendre avec lui pour que dans sa mort, nous-mêmes, nous trouvions la mort. Et c'est dans cette vérité que l'on reçoit par la foi que se trouve la délivrance de la puissance du péché. C'est en acceptant ce que Dieu nous dit, de nous considérer maintenant comme morts avec Christ, que nous connaîtrons la victoire du péché. En appliquant quotidiennement cette mort de Jésus qui nous a été signifiée dans ce baptême d'immersion qui était pratiqué dans l'Église primitive et où celui qui avait cru au Seigneur Jésus confessait qu'à sa vie passée, il était mort, alors on l'ensevelissait dans l'eau, et que comme Christ était ressuscité, n'était pas resté dans le tombeau, eh bien, sortant des eaux du baptême, il confessait qu'il avait réellement cru qu'en Jésus il avait obtenu la vie nouvelle pour qu'il puisse marcher en nouveauté de vie. Et le baptême donc est le signe extérieur qui nous fait mieux comprendre cette vérité intérieure qui a été réalisée à la croix. Quand Christ est mort, moi aussi, je mourus. Et aux yeux de Dieu, je n'existe plus comme pécheur devant lui. J'existe dans la vie de son Fils. J'ai été rendu agréable en lui, et quand Dieu pense à moi ou me voit, il ne me voit que dans les perfections de son Fils, comme c'est tonique, alors que je ne me regarde plus, que je ne regarde plus ce vieil homme, cette ancienne manière de vivre. Je suis mort. Ce vieil homme a été crucifié, a été enseveli avec le Christ. Et maintenant, c'est le nouvel homme, fruit du Saint-Esprit et de l'action de la parole, qui est manifesté, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors nos membres, que nous livrions autrefois au péché, pour accomplir des choses dont nous aurions honte, nous les livrons à Dieu pour que lui se serve de nos membres dans ce monde, qu'il en ait la disposition. Mais vous voyez, alors, vous arrivez à cette consécration totale. Mais est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'il est digne que vous lui donniez vos membres? Est-ce qu'il est digne que vous le serviez? Mais ne pensez pas, bien alors, il travaille pour les écoles bibliques, il voudrait qu'on soit tous au service du Seigneur. Non! Je voudrais que vous soyez, oui, tous au service du Seigneur, mais dans vos travaux. Comprenez-vous? Vous êtes tous à plein temps. Moi, ça me fait avoir des coliques quand j'entends ces gens qui disent qu'ils sont au service du Seigneur plein temps. Plein temps. C'est tous qui sont au service du Seigneur plein temps. Ou quand on nous dit qu'on vit par la foi, parce qu'on est prédicateur ou évangéliste et qu'on n'a pas un salaire. Mais c'est tous qui doivent vivre par la foi, même ceux qui ont un salaire. Nous vivons de foi. Il faut autant de foi pour donner une part de son salaire, hein, pour l'œuvre de Dieu, que de s'attendre à lui pour recevoir ce qui est nécessaire. Tous ont vie d'une vie de foi. Comprenons-le bien. Toutes ces distinctions que l'on fait, on a crié contre le clergé de Rome, contre la hiérarchie romaine, et on s'est refait, nous, une petite hiérarchie. On a des ministères. Bon, ben, les ministères, nous y croyons, mais nous sommes tous plein temps au service du Seigneur. Et il y a une manière de travailler qui est une prédication. Et c'est cela l'évangélisation du monde pour moi. Je ne crois pas tellement, je ne dis pas que ça ne doit pas être fait, chacun a sa vocation, mais je ne crois pas tellement à ces grandes réunions d'évangélisation. Je crois à cette édification que Paul voulait apporter aux chrétiens de Rome, et que si ces chrétiens reçoivent cette édification dans leur relation quotidienne, dans leur rapport avec le monde, eh bien, ils auront un témoignage qui amènera les inconvertis à croire. Et voyez-vous, cela est si vrai qu'on a vu des hommes et des femmes qui avaient dans leurs travaux, après leur conversion, un témoignage tellement merveilleux que plusieurs ont été convertis. Et puis malheureusement, des chrétiens plein temps les ont regardés, puis ont dit, celui-là, il faut qu'il serve le Seigneur, comme s'il ne le servait pas avant. Et on les a envoyés dans une école biblique. Ils sont sortis avec un diplôme qui leur a gonflé la tête. Et puis, ils sont gradués de je ne sais d'où. Et maintenant, ils cherchent du travail. Avant, ils avaient le travail. Ils avaient leurs paroissiens, c'était les gens qui étaient autour d'eux. Et maintenant, ils sont pasteurs dans une église. Ils ont beau avoir un beau chant de coq, tout ce que vous voulez. Les poules ne viennent pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors ils se désolent. Et puis ils ne savent pas que faire de leur temps. Parce que faire des visites le matin, on risque de rencontrer que des femmes. Ça peut être dangereux. Parce que le frère plein temps, il est aussi de chair. Alors on se dit, ben, je m'en ai étudié. Mais au lieu d'étudier la Bible le matin, on étudie les commentaires. Et le drame, c'est que tous les commentaires n'étant pas bons, on croit découvrir des doctrines nouvelles, puis on se met à les prêcher au lieu de prêcher la parole. Puis on fait des divisions. Puis on n'édifie plus les âmes. Je m'en vais de nouveau me faire exclure. Vous ne savez rien, je le suis déjà. Mais croyez-le, je ne veux pas être négatif. Si vous avez du temps et que vous voulez faire une école biblique, faites-la. Mais pas nécessairement pour devenir un prédicateur. C'est un don qui est donné, là. Mais pour vous cultiver dans la parole, hein, et puis après reprenez votre travail. pour être capable de mieux témoigner. Et vous trouverez des âmes sont là. Comprenez-vous? Je demande au Seigneur que lui-même vous montre cela. Il peut vous employer qui que vous soyez. Vous êtes au service du Seigneur. Et finissez-en en disant toujours, mais moi j'ai pas assez de temps pour le Seigneur. Tout votre temps est au Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur. Quand vous êtes à la cuisine, le Seigneur a eu besoin de manger, il a fallu que quelqu'un lui prépare un repas. Et il l'aimait bien, sa Marthe, qui lui avait préparé des repas. Il aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Pas seulement celle qui écoutait sa parole, mais aussi celle qui servait. C'est tellement beau l'équilibre du Seigneur. Quand on est avec le Seigneur, on est équilibré. Quand on est avec les chrétiens, souvent on devient déséquilibré. C'est vrai ou c'est faux? Alors, finissez-en de regarder aux chrétiens, ou à ce que disent les chrétiens, allez à la source, buvez à la source, et vous retrouverez votre équilibre, et n'abandonnez pas le Seigneur à cause des chrétiens. Ne lui faites pas ça. Ne lui faites pas ce coup-là. Hein? C'est parce qu'il y a des chiens que vous abandonnez le berger? Si vous êtes des brebis, allez, gardez-vous des chiens et des mauvais ouvriers, mais suivez le bon berger. Lui, il est prêt à vous donner sa vie et à tout vous donner. C'est beau la vie chrétienne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais la vraie, que vous cultivez dans une intimité personnelle avec le Seigneur. Votre foi ne doit pas dépendre des circonstances extérieures ou de ce que sont vos frères et sœurs. Ne cherchez plus des modèles chez eux, devenez pour eux des modèles en regardant quel modèle? Jésus. Et en contemplant votre vraie vie qui est dans le ciel. Il est ma sainteté, ma justice, mon amour. Et que je reflète cela. Alors, je réalise que j'appartiens maintenant à un nouveau mari. C'est le chapitre 7 des Romains. Je réalise que je suis au Seigneur, que je ne suis plus guidé par la loi et que maintenant je puis m'épanouir réellement dans le Seigneur. Mais ce chapitre 7 des Romains revient en arrière pour nous montrer ce que c'est que la vie d'un homme qui n'est pas encore régénéré et qui essaye de suivre la loi, bien c'est un malheureux. Et il faut qu'il arrive à reconnaître qu'il n'y a rien de bien en lui, qu'il ne s'en sortira pas en voulant faire lui-même des efforts. Il faut qu'il arrive à ce moment où il dit « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et quand il en est là, alors au lieu de dire « je », il arrive à le voir, lui, et c'est le chapitre 8 des Romains qui nous dit « lui ». Il n'y a plus de condamnation, début de ce chapitre. Le Saint-Esprit nous a franchis de la loi du péché, et c'est le Saint-Esprit en nous qui devient puissance de Dieu pour réaliser la vie du Christ en nous. Nous nous considérons comme morts, et toute l'action du Saint-Esprit sera de lutter contre la chair. C'est la seule lutte qu'on a, c'est l'esprit contre la chair. C'est pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais qu'est-ce qui va lutter contre la vieille tente, comme je le disais, contre la chair? C'est l'esprit. Et nous laissons l'esprit combattre contre la chair. Alors évidemment, nous ne faisons plus ce que nous voulons. Mais nous faisons ce que veut l'esprit. De sorte que ce n'est plus une guerre entre le vieil homme et le nouvel homme, mais c'est une guerre menée par le Saint-Esprit, mais contre la chair, pour que la chair ne nous influence plus et ne nous donne plus ces conseils funestes qui pourraient nous faire dégénérer et reprendre les habits du vieil homme, alors que nous sommes des êtres
régénéré. Il y aurait donc alors opposition entre l'homme et ses âmes. Est-ce que vous voyez le nouvel homme avec les allions du péché, avec les allions du mensonge, avec les allions de la jalousie? Et oui, parce que vous savez, hein, la jalousie, elle explique beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, hein, la petite charade qu'on nous apprenait en Suisse. Mon premier est un animal domestique. Mon second est un animal féroce, puisqu'on parle des bêtes ce soir. Et mon troisième est un instrument de charpentier. Et mon tout est un vilain défaut prononcé par les Suisses allemands. J'aime beaucoup mes frères Suisses allemands, moi. Mais qu'est-ce que c'est? Mon premier est un chat. Mon deuxième est un loup. Mon troisième est une fille. Et ça fait chalousie. Mais c'est la chalousie. C'est la chalousie. Il y a de la chalousie partout. Comprenez-la bien. Non, mais notre sœur, elle dit pas chalousie, elle dit jalousie. Au Labrador, on dit jalousie. Parce qu'on parle français aussi là-bas. Eh bien, oui, mes amis, plus de condamnation. Toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu, et plus rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est le chant de victoire, c'est le chant de triomphe du chapitre 8 des Romains. Alors, est-ce que vous acceptez le chapitre 6? Si vous l'acceptez, vous sautez par-dessus le chapitre 7, parce que ça ne vous concerne plus. Le chapitre 7, cette lutte, c'est ce qui se passait avant qu'on ait reçu l'Esprit Saint et qu'on soit régénéré. C'est une parenthèse qui nous montre un homme régénéré parlant de ce qu'il a pu réaliser avant d'être régénéré. Voilà. Est-ce qu'on peut faire maintenant, après nous être levés, encore quelques mots pour montrer ce que nous allons voir? Dieu voulant, demain matin, au culte, nous allons prendre un merveilleux texte de l'Épître aux Romains qui se trouve dans la parenthèse des chapitres 9 au chapitre 11 que nous étudierons, Dieu voulant, lundi, et qui nous parle du mystère et de l'élection d'Israël. Et je pense que dans cette étude de lundi, nous aurons des réponses vraiment lumineuses au sujet de questions qui pouvaient se poser. Alors, les Juifs, au fond, à quoi nous sont-ils? Et qu'est-ce que Dieu va faire de ce peuple qui a rejeté le Seigneur? Est-ce que c'est pour toujours qu'ils ont été laissés loin de Dieu? Est-ce que la loi, au fond, ne leur a donné aucun privilège? Dans le chapitre 9, il va être dit que, justement, tous ces privilèges demeurent pour les Juifs, et que l'apôtre Paul continue d'aimer les Juifs, et vous verrez qu'il ressemble drôlement à Moïse quand il dit qu'il a souhaité d'être anathème pour le salut de ces Juifs, comme Moïse dit « Efface-moi de ton livre, mais sauve-les ». Eh bien, c'est pas parce que lui, il a été visité par le Seigneur qu'il a abandonné son peuple. Et il nous montre que Dieu non plus n'a pas abandonné son peuple. Mais pendant le temps de l'endurcissement d'Israël, Dieu a trouvé le moyen d'évangéliser les païens. Mais comme maintenant, les païens ne veulent plus du Seigneur, et nous sommes à une heure où le monde est saturé de l'évangile, et ce n'est pas l'évangile que l'on vit, ce n'est pas l'évangile que l'on suit. Alors, la fin du temps des nations, de ce temps qui a été donné pour les païens, approche de son terme, et ce que Dieu va faire, c'est reprendre ses relations avec Israël, et se révéler à Israël, pour l'amener à la repentance, et que
il soupire lui aussi après la venue de ce Messie et qu'il reconnaisse que ce Messie, c'est celui qui a été percé autrefois et qui revient comme Zacharie, leur prophète, l'a déjà dit, avec des mains qui sont percées. Et le peuple dira soudainement dans une révélation, quelles sont ces blessures à tes mains? Et le Seigneur dira, ce sont celles qui m'ont été faites dans la maison de mes amis. Et par cette grande détresse que connaîtra Israël, quand les nations ayant apostasié complètement, ayant rejeté ouvertement les vérités chrétiennes, eh bien, quand dans cette détresse, les Juifs crieront au Seigneur, le Seigneur apparaîtra et les sauvera. Pour les Juifs, le salut ne vient pas par le moyen des chrétiens, parce que, justement, ce qui empêche de croire les Juifs, c'est les iniquités, les abominations des chrétiens. Et ce qui empêche de croire les musulmans, c'est aussi les crimes que l'Église officielle a fait contre eux. Vous connaissez l'histoire de l'Inquisition, on brûlait les Juifs au nom du Christ. Vous connaissez l'histoire des croisades, on massacrait les musulmans au nom du Christ et en ayant la croix sur la poitrine. Il y a eu trop d'iniquités faites au nom du Seigneur pour que ces peuples puissent se convertir par notre moyen. Nous sommes handicapés quand nous voulons annoncer l'Évangile à ces peuples-là. Et il faut que Dieu trouve des hommes nouveaux qui ne sont pas compromis dans toutes ces iniquités. Et la dernière de ces iniquités a été que protestants et catholiques en Allemagne, et avec le consentement tacite de toutes les nations dites chrétiennes qui savaient ce qui se passait et qui n'ont pas réagi, eh bien, massacrent plus de 6 millions de juifs. Et quand vous allez pour annoncer l'évangile en Israël, eh bien, vous savez, vous devez rester très petit. Car pour eux, ceux qui ont massacré les juifs, c'était tous des baptisés. Hitler était baptisé, Eichmann était baptisé, que vous soyez protestant, que vous soyez catholique, pour eux, c'était des chrétiens. Et alors, comment voulez-vous que ces gens se convertissent et viennent au christianisme? Pour le peuple juif, c'est renier, c'est tout renier, c'est renier leur histoire, c'est tout renier. Alors, vous comprenez cette difficulté. Alors, la réponse, on l'a dans les chapitres 9, 10 et 11 des Romains. Et comment Dieu va s'y prendre pour sauver aussi Israël, qui reste encore le peuple choisi. Dieu l'a mis à l'écart pour faire entrer les nations. Et alors, demain, Dieu voulant, nous méditerons, puisque c'est un culte d'adoration que nous aurons, sur les versets 32 à 36, aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu. Chapitre 11, je méditerai là-dessus avec vous autres dans le culte qui doit nous préparer à l'adoration, aux profondeurs de la richesse, verset 33, et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui. Et par lui, et pour lui, que sont toutes choses, à lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Eh bien, que vous puissiez déjà méditer dans vos cœurs sur ce texte, et vous viendrez avec des cœurs pleins de louanges et d'adoration demain matin, si nous devons voir ce jour. Après cela, alors, mardi, lundi, nous étudierons alors ces trois chapitres, le 9, 10 et 11. Mais dimanche, nous prendrons ces versets de la fin du 11, parce que nous pensons qu'ils sont tout à fait valables pour nous orienter dans notre culte. Et alors lundi, on n'examinera ce que nous venons de vous dire au sujet d'Israël et au sujet des nations dites chrétiennes qui vont sombrer, ne vous y trompez pas, dans l'apostasie, le rejet ouvert des vérités du christianisme. On connaît la vérité, mais on ne la pratique pas. On est en plein dans ces moments-là. Et vous voyez que l'on croit plutôt au mensonge que à la vérité. On cherche chez les bouddhistes, on cherche chez les hindous la voie alors que nous l'avons. Autrefois, c'était l'Orient qui venait chercher à Bethléem la lumière par les mages, tandis que maintenant, les baptisés, ils font leur pèlerinage aux Indes pour y trouver la vérité. Et ils ne la trouvent pas. Quel temps que ceux dans lesquels nous sommes. Les animaux connaissent le temps. Et nous, nous ne le connaissons pas. Chapitre 12. Alors, commence depuis le chapitre 12 les vérités pratiques, la partie pratique. En retour à toutes ces compassions que Dieu a eues à notre égard et qui ont été manifestées dans ces 11 premiers chapitres, les compassions de Dieu, sa bonté qui nous pousse à la repentance, en voyant le merveilleux salut gratuit que Dieu nous a donné, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, maintenant, pour le Seigneur? Nous livrer à lui. Livrer nos corps. Et c'est ça qui sera notre culte raisonnable. Un culte, c'est pas un culte en parole, où on chante des cantiques, c'est une offrande que l'on fait de sa personne. Non plus de nos péchés, c'est fini la question de nos péchés, on ne lui offre pas nos péchés, on les a confessés, nos péchés, mais qu'est-ce qu'on lui offre? Notre corps. Et c'est ça le christianisme visible, c'est un corps consacré au Seigneur. Parce que le monde, il ne voit que notre corps. Alors, ne nous conformons pas au présent siècle, ne suivons pas les habitudes de ce siècle, les modes de ce siècle, remontons le courant. Et vous savez, si vous êtes à l'école de Jésus, vous serez toujours à la mode. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y aura rien d'extravagant. Hein, vous serez toujours dans l'équilibre. Savoir si on doit porter des jupes en dessus du genou ou en dessous pour les femmes, eh bien le Seigneur vous le montre ce que vous devez faire. N'est-ce pas? Savoir si vous devez porter un chapeau ou pas un chapeau, mais écoutez, ayez affaire avec le Seigneur pour votre chapeau. Parce que vous savez, il y a des choses très pénibles, même dans les milieux très évangéliques. J'ai vu des femmes qui voulaient absolument être couvertes et qui avaient un chapeau. Alors elles avaient un grand chapeau, un de ces bibis incroyables, selon la mode du jour. Mais elles avaient en même temps des jupes très courtes. Alors, j'aurais voulu qu'elles mettent leur chapeau sur leurs genoux. Parce que quand on était en face d'elles, on voyait ce qu'on ne devait pas voir. Ou des choses auxquelles on ne devait pas penser. Alors ça ne nous inspire pas du tout pour la louange. Alors faites toujours attention. Décence et modestie. Décence, c'est assez. Modestie, c'est pas trop. Hein? Oui. Mais il y a vraiment un équilibre dans le Seigneur. Et ça descend dans la vie pratique, ces choses-là. Vous aurez cela, et par la grâce qui nous a été donnée, chacun, vous accomplirez une tâche, vous êtes tous au service du Seigneur plein temps, mais vous n'avez pas à imiter tel frère qui a plus de dons, et vous n'avez surtout pas à le chalousser. Pas du tout. Un frère est un don pour vous, une sœur est un don pour vous. Réjouissez-vous que quelqu'un ait des dons, ça m'apporte quelque chose, c'est ma richesse. Mon frère qui a des dons, ben il m'apporte quelque chose. Alors je ne le jalouse pas, je bénéficie de ce qu'il est, de tous les cadeaux qu'il me donne. Et j'en ai besoin. Et ne me jalousez pas, mais bénéficiez de ce que le Seigneur peut me donner. Je vous appartiens et vous m'appartenez. C'est ça qui est merveilleux. Voilà la vraie union spirituelle. Nous nous appartenons les uns les autres. C'est cela la richesse du corps de Christ, et ne vous isolez jamais, lors même qu'on a des fois cette tentation de faire comme Jérémie, de partir et de demander, comme nous le verrons, les ailes de la colombe pour nous en aller un peu loin de ce peuple. Hein. Eh bien, non, nous devons témoigner, Mais alors, nous ne devons pas dépasser notre mesure de foi. Dieu ne vous demande pas de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et s'il a demandé à tel frère de faire cela, il ne vous le demande pas nécessairement. Et il ne fait pas de complexe d'infériorité. Ça, c'est charnel, le complexe d'infériorité. Comme aussi le complexe de supériorité. Soyez vous-même. Acceptez-vous vous-même. C'est cela que le Seigneur nous montre. Et alors, depuis le verset 9, vous verrez ce que doit être la charité. Vous avez le programme de vos actions, de ce que vous devez faire à votre prochain, et aussi de ce que vous ne devez pas faire, ne pas vous venger vous-même, mais d'agir, même pour votre ennemi, si ton ennemi a faim. Ensuite, au chapitre 13, nous verrons comment nous pouvons être soumis aux autorités civiles, comment un chrétien n'a pas affaire de politique dans ce monde, mais comment il peut être un bon citoyen en payant ses impôts, en étant un exemple de vie. Il y a une fois, je me souviens, j'avais été arrêté par la police, c'était en France, j'évangélisais, j'avais 20 ans, et puis on m'avait dénoncé, alors on est venu pour m'arrêter et me conduire au poste, et puis tous les gens de cette ville de Saône-et-Loire m'avaient contredit avec l'ami avec lequel j'étais, quand nous prêchions l'évangile sur la foire, eh bien les gens criaient « Venez voir maintenant si son Jésus va le délivrer !» Et à ce moment-là, une très belle jeune femme a traversé la foule et est venue vers le commissaire qui m'emmenait avec d'autres gendarmes au poste. Mon ami était loin, il avait lu les papiers, moi je ne les avais pas. Puis elle dit avec autorité au commissaire, « Pour quelle raison arrêtez-vous cet homme ? Je réponds pour lui. » Alors c'était la consternation. Et le commissaire, il était tout tremblant dans ses culottes devant cette femme. Et moi j'ai eu une vision d'ange. Et puis elle dit, « Si tout était comme lui, on n'aurait pas besoin de vous dans notre ville. » Elle dit au policier. Et elle me prend, ils m'ont relâché immédiatement, puis je pars avec elle, ne sachant où j'allais. C'était la fille d'un magistrat de la ville, seule convertie. Elle avait fait une école biblique à Genève. Puis elle nous avait entendu chanter sur la rue. Et puis elle avait dit à ses parents, il y a deux évangélistes qui travaille dans la ville, ses parents étaient bien dans la société, je vais les inviter à dîner, les parents étaient d'accord, puis elle est arrivée juste au moment où on m'arrêtait. Et alors, on a pu louer le Seigneur, que de délivrance, oui vous les voyez les anges, le Seigneur est avec vous. Et si nous sommes soumis aux autorités, eh bien, ces qualités aussi sont reconnues, et nous n'avons pas à craindre la police non plus. Et si même la police se trompe, le Seigneur est au-dessus de la police. Et c'est merveilleux. Alors ne devez rien à personne. Voilà pour ceux qui veulent vivre dans les dettes. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Puis maintenant, connaissant le temps, comment devons-nous vivre ici-bas? D'une façon relâchée. Connaissant qu'on n'a plus beaucoup de temps, profitons-en. Hein, c'est ça? Non. Là, vous avez le verset qui a converti saint Augustin, qui était un homme adonné à la luxure, et qui, à Milan, a trouvé un texte des Romains, et s'est converti à ce moment-là, sa mère Monique étant ainsi exaucée. Puis maintenant, vous avez le chapitre 14 que nous considérerons ensuite dans les journées suivantes où nous voyons quelle charité nous devons avoir envers les faibles, notre tolérance entre chrétiens, comment nous devons comprendre les chrétiens, nous faire tout à tous et savoir nous priver de certaines libertés quand on est avec un chrétien faible. Je suis assez libre pour me priver de mes libertés, et ça, sans hypocrisie, je veux toujours voir le bien de mon prochain. Alors, je n'abuserai pas non plus des choses légitimes, parce que cela ferait péché. Et vendredi, nous arriverons au chapitre 15, qui développe l'amour chrétien, tout ce que nous trouvons dans la consolation que donnent les Écritures pour renouveler notre espérance. Cela vous montre encore que Paul revient à tout l'Ancien Testament. Et nous continuerons le samedi, si nous y arrivons,